Nous allons faire une première lecture dans l'évangile de Luc au chapitre 17. Les pharisiens se posaient une question, à savoir si le royaume de Dieu était déjà au milieu d'eux. Eh bien, nous allons le lire dans Luc chapitre 17, verset 20. Luc chapitre 17, verset 20. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas « il est ici » ou « il est là » car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. » Nous allons lire toujours dans l'évangile de Luc au chapitre 1er à partir du verset 26. Vous connaissez tous cette histoire qu'on rappelle continuellement depuis 2000 ans à Noël, mais il est souhaitable de la rappeler régulièrement pour comprendre certaines vérités. Luc chapitre 1er au verset 26. Le sixième mois, c'est le sixième mois de la grossesse d'Élisabée, donc la maman de Jean-Baptiste. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Quelle expérience! Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Il sera grand et appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. » Voici. Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. Vous voyez comment les gens sont gentils, hein? Ouais, ils l'appelaient stérile. Hein? Car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta, et je pense qu'on peut tous dire Amen. Quelle histoire! Vous le croyez, ça? Jérémie vous a proposé de savoir si vous étiez tous d'accord avec les chants. Vous ne seriez pas d'accord avec quelques chants, ça ne me gênerait pas trop, mais j'espère que vous êtes d'accord avec ça. Et cet ange dans la maison de Marie, quelle joie être visité par l'ange Gabriel. C'est déjà pas mal quand même, hein? Et cet ange a dit une parole qui va ce soir résonner dans notre cœur, car rien n'est impossible à Dieu. Vous entendez, mes frères et sœurs? Nous devons l'entendre, c'est une parole de la Bible. Nous devons entendre aussi notre parole qu'on peut lire, je vous la lis, c'est dans Hébreux 13, 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous, nous changeons. Nous avons des hauts, nous avons des bas, nous avons des moments difficiles, nous ne reconnaissons parfois même pas tout ce que nous disons. Oh, j'aurais jamais cru que je dirais ça. Nous changeons. Nous ne nous connaissons pas vraiment. Nous ne sommes pas sûrs de nous connaître vraiment. Je pense que si on traversait certaines épreuves, que Dieu nous en garde, nous aurions peut-être, nous serions étonnés de certaines de nos réactions. Dieu est le même hier, aujourd'hui, hier. S'il fallait écrire tout ce que Jésus a fait hier, déjà, rien que ce que Jésus a fait pendant son ministère. Ne parlons pas de tout ce qu'il a fait avant, de tout ce qu'il a fait depuis jusqu'à aujourd'hui. Sérieusement, s'il fallait consigner dans des bouquins tout ce que Jésus-Christ a fait dans la vie des gens qui se sont confiés en lui. Est-ce que vous croyez que Jésus a fait beaucoup de choses? Mais c'est hallucinant. Tout ce que Dieu a fait depuis non seulement le commencement de la création, mais depuis que les hommes se sont confiés en lui. Tout ce que Dieu a fait depuis 2000 ans, depuis 6000 ans, tout ce que Dieu a fait hier, tout ce que Dieu fera éternellement, tout ce que Dieu a préparé pour nous. Vous savez que dans le ciel, il y a des choses qui sont préparées. Les nouveaux cieux, la nouvelle terre, ça va être un truc de fou. Vous ne croyez pas? Ça va être quelque chose de grandiose. Vous croyez que la terre que Dieu va faire, elle va être petite comme la petite boule sur laquelle on est? moi je suis sûr que ça va être immensément grand, que ça va être merveilleux. Vous le croyez? Et Dieu encore va faire des choses. Éternellement, nous aurions déjà, rien que si nous prenions les textes de la Bible, pour ce qui nous est dit sur ce que Dieu va faire, nous serions bouleversés. Oui, hier, c'est extraordinaire. Éternellement, c'est encore plus extraordinaire. Mais aujourd'hui, ce soir, la volonté de Dieu, c'est de bénir. Pas demain. Bien sûr, demain, espérons, Dieu bénira. Mais aujourd'hui, est-ce que vous croyez que Jésus peut bénir quelqu'un aujourd'hui? Là, ce soir, dans cette demi-heure que nous avons à passer ensemble, sous son regard, est-ce que Dieu peut bénir quelqu'un pendant la demi-heure, le moment de prière qu'on va avoir? Est-ce que quelqu'un aurait l'audace de dire, Seigneur, je compte sur toi? Je compte sur toi. Oui, c'est un jour de grâce. Aujourd'hui, c'est un jour de grâce. C'est un jour de salut, de guérison. Oui, de baptême. Est-ce que Dieu peut baptiser quelqu'un du Saint-Esprit? Est-ce que Dieu peut délivrer quelqu'un qui est lié par un péché, par une passion depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans? Peut-être quelqu'un dit, moi, ça fait 25 ans, 30 ans que je suis lié par cette passion. Je suis foutu. Les docteurs ont dit que j'y arriverai jamais. Mais oui, le docteur, c'est bien. Mais je crois quand même que la vie de Dieu est certainement plus sérieux que celui des docteurs. Si on avait écouté la vie des docteurs de monsieur, il y a longtemps qu'on aurait célébré son inhumation. Béni soit Dieu pour la médecine. Mais je crois que la vie et la bénédiction et la délivrance sont dans la main du Seigneur et pas dans la main des docteurs. Oui, c'est un jour de grâce. Et ce soir, il vous sera fait selon votre foi, selon notre foi, selon la bénédiction de Dieu. Mais il ne faut pas oublier que la bénédiction de Dieu, ça dépend de sa grâce et de notre foi. Le salut, prenons le salut parce que ça ne peut pas être mieux expliqué. Dans Éphésiens, au chapitre 2, pour ceux qui découvrent l'Évangile, on va quand même le lire. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, il est clairement expliqué comment on est sauvé. C'est résumé, mais c'est valable pour toutes les autres bénédictions. Éphésiens chapitre 2, la Bible parle que nous étions morts dans nos offenses, etc., que la miséricorde de Dieu est tombée sur nous, que nous avons accepté le sang de Jésus-Christ, et il explique comment un homme est sauvé. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Ça ne peut pas être plus simple. Si vous saisissez cette vérité pour le salut, vous pouvez la saisir pour toutes les autres grâces. Regardez, Éphésiens 2, 8. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Voilà, ce verset, vous devez le mémoriser dans votre cœur. C'est par la grâce. La grâce, c'est la part de Dieu. Le moyen de la foi, c'est la part de l'homme. La conjonction des deux fait qu'il y a le salut. Dieu a donné sa vie en Jésus-Christ sur le bois de la croix, mais rien ne s'accomplit si vous ne le croyez pas de tout votre cœur. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, ça fait les 99,99%, et le dernier millième, c'est la part de l'homme. Mais il faut qu'il y ait cette part, c'est l'étincelle qui saisit la bénédiction. Alors il faut comprendre cette vérité. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui s'assoient, ils attendent passivement, presque bêtement, que Dieu les bénisse. Oui, c'est vrai que Dieu peut le faire. Est-ce que Dieu peut bénir quelqu'un qui ne le demande pas? Moi, je le crois. Après tout, Dieu est souverain. Mais il y a une vérité. Et je pensais ce matin, en préparant cette prédication, ne le cherchez pas, c'est dans le prophète Daniel, au chapitre 11 et au verset 32, il est dit, « Ceux du peuple qui connaîtront Dieu agiront avec fermeté. » Ceux du peuple qui connaîtront Dieu agiront avec fermeté. Et ce que Dieu veut, c'est ça, qu'on ait une foi ferme. Dieu l'a dit, je le crois. Ce soir, qu'est-ce qu'on entend? Que nous avons un Dieu qui est le même hier, éternellement, et aujourd'hui, je le crois. Et je saisis cette vérité. Ceux du peuple, c'est-à-dire dans le peuple de Dieu, il y a des gens qui seront fermes. Ils agiront avec fermeté, Dieu les bénira. Et nous sommes dans un monde mou. Les gens sont mous. C'est vraiment... L'autre jour, je regardais une affiche publicitaire, il y avait un gars qui présentait des habits. Il était là comme ça, vous voyez, tout mou. Voyez, mais tout déstructuré. Je me dis que ça fait pitié. Un homme tout mou pour présenter des habits. Je ne sais pas si vous l'avez vu, cette publicité, il n'y a pas longtemps. Et ça, ce n'est pas bon. Nous sommes dans un monde de faiblesse, où les gens sont nonchalants, abattus. Ça fait presque BCBG... que d'être mou. Je suis désolé, c'est pas ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous demande d'être ferme. Abraham a été ferme. Il n'a pas faibli dans la foi. Il n'a pas regardé son corps. Il n'a pas regardé le corps de sa femme. Il a dit, Dieu m'a fait une promesse. Je m'attache à cette promesse. Il a attendu très longtemps. 25 ans. 25 ans. C'est beaucoup, 25 ans? Ouais, c'est beaucoup. Est-ce que ça valait la peine qu'il persévère? Il y a eu deux ou trois incartades entre-temps. Mais enfin, une chose est certaine, Dieu ne lui a pas reproché. Dieu l'a gardé. Il a été exaucé à cause de sa fermeté dans la foi. Ce soir, vous devez comprendre, vous devez saisir cette vérité. Nous ne sommes pas là pour avoir une réunion de plus. Nous sommes là parce que Dieu le veut. Dieu veut sauver, Dieu veut guérir, Dieu veut délivrer. Ça passe par la grâce et ça passe par la foi. C'est inévitable autrement. Et cette foi, il faut qu'elle soit vivante. On aurait pu chanter de bons cantiques ce soir. Ma foi est vivante. Hein? Ma foi est vivante. Non, on a chanté des bons cantiques. Hein? Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Est-ce que ce soir, dans votre cœur, là, si à votre place, vous dites oui, je me fais violence. Je ressens dans mon esprit qu'il y a quelque chose qu'il faut que je prenne par la foi. Allez-vous le prendre? Si le Seigneur passe dans les rangs, allez-vous prendre la bénédiction du Saint-Esprit? Allez-vous prendre cette faveur de Dieu? Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Vous connaissez tous l'histoire de Marthe, de Marie et de Lazare. Vous connaissez tous la résurrection de Lazare. Tous ceux qui ont lu la Bible se souviennent des résurrections qu'il y a dans la parole de Dieu. Il y a combien de résurrections faites par Jésus dans la Bible? Jérémie? Combien? Oui, c'est ça. Il y en a trois. Jésus a ressuscité. Oui. Oui, la fille de Jaïrus et le fils de la veuve de Naïm. Jésus a ressuscité trois personnes. Une petite qui venait juste de mourir, l'impression qu'elle dormait. Un autre le jour de son enterrement, il était mort, bien mort aussi. Et un qui était mort depuis 4 jours. Mais vous savez, ils étaient morts tous les trois. Le Seigneur, il avait le pouvoir de les ressusciter. Ce soir, j'aimerais que vous compreniez, que nous comprenions, que le Seigneur, il est le Dieu de la résurrection. Amen. Il a le pouvoir de mettre la vie là où il y a la mort. Quand cette affaire s'est produite, il nous est dit que Jésus était en mission. Marthe et Marie ont fait connaître à Jésus le fait que Lazare était malade. Elles savaient où il se trouvait. N'oubliez pas que c'était des amis. Qu'il est dit que Jésus aimait Marthe et Marie et Lazare. C'était vraiment des amis. Vraiment, s'il y a bien un endroit où Jésus a été bien dans une maison, c'est dans cette maison, à Béthanie, si vous avez la chance d'aller en Israël, peut-être que vous y passerez. Hein? Jésus était en mission, et voilà, Marthe dit, voilà, il te faut venir, notre frère est malade, ça ne va pas très bien, il faudrait que tu viennes. Est-ce que c'était normal? Ben oui, c'était leur ami. Et Jésus n'est jamais venu. Et la santé de cet homme s'est dégradée à tel point qu'il est mort. Et Jésus arrive que quelques jours après, en vérité, 4 jours après l'enterrement. Quelle situation! Le Seigneur l'a voulu, vous connaissez, c'est dans Jean au chapitre 11, on va voir quelques versets. C'est le Seigneur qui l'a voulu, il a volontairement décidé d'attendre. Nous, on aurait voulu qu'il vienne de suite, parce que quand les situations sont désespérées, la souffrance augmente. Quand les situations sont graves, eh bien, la crainte s'installe. Et puis on est là, on ne peut rien faire. Et les autres ne peuvent rien faire. Ça vous est déjà arrivé de souffrir à cause de la souffrance des autres parce que vous ne pouviez rien faire? Combien même on a entendu, moi j'ai entendu un jour un homme, je préférerais être à la place de mon fils. Ce jeune homme était dans le coma et je me souviens de cet homme qui disait, c'est pas normal, c'était un homme pieux en plus, mais ce n'est pas normal, il n'était pas vu, il avait 65 ans. Il dit, mais maintenant je suis vieux, c'est pas à moi d'être dans le coma, c'est pas mon fils, ça serait à moi. Alors moi je lui dis, écoutez, je comprends tout ça. Mais il rigolait pas. Je préférerais être à sa place. C'est terrible quand on souffre, mais quand on souffre aussi, parce qu'on ne peut pas changer les choses. Vous êtes d'accord avec moi? C'est de la vraie souffrance. On est là, on sait pas quoi faire, on peut rien faire. Et c'est ce qui se passe. Et ça aggrave les choses et l'espérance est détruite. On le voit plusieurs fois dans la Bible où l'espérance du peuple de Dieu était détruite. Et ça vous brise le cœur et ça peut vous marquer pendant des années. Si la grâce de Dieu n'est pas là, ça peut vous détruire. Il y a des gens qui ont été détruits. Les Hébreux disaient, quand Dieu leur a montré la vallée des ossements desséchés, nous sommes détruits. Et voilà, quand ils priaient, ils disaient « Nous sommes détruits ». Ce n'était pas des blagues, c'était la vérité. Ils étaient détruits parce que la souffrance, au fur et à mesure, ça vous détruit. Mais Jésus sait ce qu'il fait. Est-ce que vous croyez que Dieu est souverain? Qu'il est vraiment le Tout-Puissant? Que depuis qu'il est Dieu, depuis toujours, il règne sur son trône, il règne éternellement. Il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il doit faire. Alors c'est vrai que les sœurs, pourtant ce sont des amis, comme quoi on peut être un ami du Seigneur et se poser des questions. Vous voyez, ce n'est pas parce qu'on a des remises en question, c'était les amis du Seigneur. Venez avec moi dans Jean, c'est écrit. Parce que bon, Jésus aimait tout le monde, vous êtes d'accord. Mais il avait une affinité avec certaines personnes, avec Jean par exemple. Il avait une affinité particulière. Il est dit que c'était le disciple que Jésus aimait. Jean chapitre 11 verset 5, c'est écrit. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Il les aimait. Il y avait une affection profonde. C'était quand même pas dans toutes les maisons où Jésus était bien accueilli. Et voilà que ces deux sœurs vont apprendre que Jésus revient. Alléluia. Est-ce que ce soir, le Seigneur revient au milieu de nous? Est-ce que vous croyez qu'il est là, qu'il regarde? Mais je vous dis, moi, il regarde vos cœurs. Il regarde si vous allez saisir par la foi la parole qu'il veut vous adresser d'une manière personnelle. Alors c'est vrai que autant Marthe, verset 21, Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, voyez, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Verset 32, Marie fut arrivée là où était Jésus, qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Voilà les propos de deux femmes qui sont dans le deuil. Elles sont dans le deuil depuis 4 jours. Elles souffrent intensément, elles ne comprennent pas pourquoi Jésus allait s'occuper des gens, des étrangers entre guillemets, et qu'il n'est pas venu s'occuper de leur frère qui était un ami personnel, qui soutenait d'ailleurs le ministère du Sauveur. Alors Jésus, bien sûr, vous savez, Jésus, il répond simplement, ou il ne répond pas. Parce que parfois Jésus répond, parfois Jésus ne répond pas. Ce n'est pas parce qu'on va avoir les mêmes paroles qu'il va répondre les mêmes choses. Elles ont dit la même parole, Jésus n'a pas répondu la même phrase aux sœurs. Faisons attention à ne pas avoir des paroles stéréotypées pour répondre aux gens. Faisons attention, demandons le secours du Saint-Esprit pour apprendre à consoler les gens. Ce n'est pas toujours la même parole qu'il faudra utiliser. Voilà, Jésus répond, mais ton frère ressuscitera. Alors bien sûr, nous on connaît la fin. C'est facile. Oui, je sais, il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour, on connaît la doctrine. Marthe connaissait très bien la doctrine. On a compris, je sais, elle croyait à la résurrection. Vous y croyez à la résurrection des justes? À la résurrection des injustes? Ouais. On y croit tout ça. Ouais. Alors, bien sûr qu'elle, s'il avait été là il y a 4 ou 5 jours, ça se serait passé différemment. Elle ne réalisait pas qu'il était là. Combien de croyants en sont là aujourd'hui? Ah, si le Seigneur était intervenu dans ma vie avant que je me marie. C'est vrai ou c'est pas vrai? Certains l'ont dit, ça. Ah, si je m'étais converti à 19 ans, je ne me serais pas marié avec un inconverti. Combien l'ont dit? Et c'est vrai que tout ça, ça tient debout. Ça tient debout. Mais laissez-moi vous dire que quand Jésus vient dans votre vie, ce n'est pas pour que vous souffriez de votre passé ou pour que vous disiez « si j'avais fait autrement, si j'avais pu faire comme ça ». Non, nous n'avons pas un Dieu qui était dans le passé, nous avons un Dieu qui est dans le présent, un Dieu qui dit « je suis le même hier et aujourd'hui ». Et Marthe avait besoin d'entendre que le Seigneur était la résurrection et la vie. Il est la vie, il peut ce soir communiquer la vie, dans n'importe quel cas de figure. Vous ne le pensez pas mes frères et sœurs? Il est la vie. Et là c'est comme si elle disait « écoute Seigneur, t'es en retard. Si t'étais arrivé plus tôt, on n'en serait pas là. Maintenant tu ne peux rien faire ». Vous croyez que Dieu ne peut rien faire dans votre vie? Vous croyez que Dieu ne peut plus rien faire dans votre vie? Parce que vous vous êtes trompé? Parce que vous avez commis des erreurs? Parce que vous avez peut-être été, maladroit dans une situation où vous dites « Ah, mais là, le Seigneur, c'est terminé !» Je suis la résurrection et la vie. Voilà, il n'est pas rentré en explication, mais je vais t'expliquer pourquoi je n'étais pas là, etc. Non. Le Seigneur, il ne nous dit que ce que nous avons besoin d'entendre. Ce soir, il faut que nous nous souvenions tous que lorsque Jésus parle, il dit ce qu'il a à dire. Il dit « Je suis la résurrection et la vie ». Nous, on n'a pas à dire si tu avais été là ou si tu faisais comme ça, peut-être que ça serait... Il y a des gens qui donnent des ordres à Dieu. On l'entend des fois dans les prières. Moi, je me garde de dire « Amen » à chacune de ces prières. Il y a des gens qui conseillent Dieu. Ils ne réalisent pas qu'il est tout puissant. Mais ils ne le font pas méchamment. Je pense que Dieu ne leur en tiendra pas rigueur. Vous savez, Job a parlé de manière très, très, très difficile. Hein, à... Quand il dit « Je suis dégoûté de la vie », ce n'était pas une blague. Il était dégoûté de la vie. Dieu ne le lui a jamais reproché. La souffrance qu'il traversait faisait que son cœur parlait de cette manière. D'ailleurs, il le dira d'ailleurs dans un moment, « C'est à cause de la douleur que je parle de cette façon. » Soyons miséricordieux avec les gens qui souffrent. Mais là, Marthe est en train de dire « Oui, mais si tu avais été là, si tu avais été là, combien on dit « Ah, mais tu m'as oublié ». Moi, j'ai entendu, oh, « Dieu m'a oublié ». Au moment où j'avais le plus besoin, Dieu m'a oublié. Vous croyez que Dieu vous oublie? Dieu n'oublie pas. D'ailleurs, à un moment donné, il va dire « Aucun oiseau n'est oublié devant Dieu ». Mais elle ne savait pas. Elle ne savait pas ce que Jésus allait faire. Elle n'avait pas entendu la conversation de Jésus avec les douze. Quand il a dit, vous avez vu quand il a dit plus haut, elle ne savait pas. Au verset 14, Jésus leur dit ouvertement « Lazare est mort à cause de vous ». Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que j'étais pas là. Je ne sais pas ce qu'ils ont dû penser. Son meilleur ami vient de mourir et dit, moi je me réjouis de ce que j'étais pas là. Je suis sûr qu'ils ont dû dire, tiens, c'est bizarre. Parce que nous, on lit, on ne fait pas attention. Vous en êtes compte? Alors dans ce chapitre, il se réjouit. Un petit peu plus loin, on le voit pleurer. On pourrait dire, mais je ne comprends pas tout. Mais vous savez, ça sera toujours comme ça. On ne comprendra pas toujours les paroles du Seigneur. Si Marthe et Marie avaient entendu dire, tu sais pas ce qu'il a dit Jésus? Tu sais pas ce qu'il a dit? Il a dit qu'il se réjouissait. Qu'est-ce que tu en penses? Je sais plus. Mais il a dit. Elles l'ont pas entendu. Elles pensaient qu'il fallait qu'il agisse comme ça. Vous pensez peut-être que Dieu va agir comme ça pour sauver votre mari, pour guérir votre enfant, pour sauver votre fils. Vous dites, oh, ça serait bien que Dieu fasse comme ça. Écoutez-moi, Dieu, il n'a pas besoin de nos conseils. Il a besoin de nos prières. Il sait comment faire pour sauver quelqu'un. Vous croyez que quand les chrétiens persécutés priaient pour les persécuteurs, vous croyez qu'ils ont dit au Seigneur, écoute, tu sais, Saul de Tarse, là, tu sais ce persécuteur, il va à Damas la semaine prochaine. Ça serait bien que tu le fasses tomber de son cheval, que tu lui mènes une bonne leçon. Vous croyez que le Seigneur, ah tiens, il m'a donné une idée. Vous riez. Mais mes frères et sœurs, Dieu, il sait tout et il sait comment est le cœur de votre mari, comment est le cœur de votre fils, et il sait exactement le jour, l'heure, la minute où il va le toucher. Persévérez, ne lui donnez pas d'ordre, ne dites pas « il aurait fallu que tu fasses comme ça ». Maintenant c'est trop tard, parce que les problèmes ils sont là ce soir les problèmes, oui ou non? Jésus il est là ce soir parce que les problèmes ils sont là maintenant, les difficultés elles sont là, la maladie elle est peut-être là ce soir, il y a peut-être quelqu'un qui est malade ce soir. Croyez-vous que Jésus puisse vous guérir? Jésus a répondu d'une façon différente à Marthe, Jésus a répondu d'une façon différente à Marie, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a été devant le tombeau, il a dit « vous l'avez mis ». Et il l'a mené devant le tombeau. Quelle affaire! Est-ce que Jésus est devant votre vie? Est-ce que vous pouvez dire ce soir, Seigneur, je me tiens devant toi? Vous pouvez le dire? Par la foi, est-ce que là où vous êtes, vous dites « Seigneur, mais je suis devant toi, je ne suis pas venu pour faire plaisir au pasteur, je ne suis pas venu pour faire plaisir à quelqu'un, je suis devant toi ». Et Jésus a été devant le tombeau. Il savait ce qu'il allait faire. J'aimerais que vous compreniez ce soir que si vous vous tenez devant Dieu, il sait ce qu'il va faire. Il va le faire. Si vous lui faites confiance. Si vous lui faites confiance. Parce que c'est à ce moment-là que nous voyons Jésus qui pleure. C'est quand même le verset le plus court de la Bible. Ça, tout le monde est au courant. Mais au verset 35, on voit Jésus pleura. Moi, c'est quelque chose qui m'a turlupiné pendant des années, cette affaire. Jésus a pleuré alors qu'il savait très bien qu'il allait ressusciter Lazare. Est-ce qu'il le savait qu'il le ressusciterait? Est-ce qu'il le savait avant qu'il tombe malade? Mais il le savait. C'est pour ça qu'il a attendu, pour manifester sa gloire. Parce que quand Dieu intervient, ça décuple la façon dont il va manifester sa gloire. Il savait. Mais attention, il a pleuré. Moi, je sais pourquoi. Je pense savoir pourquoi il a pleuré. Vous savez pourquoi? Pas pour Lazare, pas pour tous ces gens qui étaient là, pas pour Marthe et Marie. Il a pleuré, je pense que c'est ça. Je ne l'ai jamais lu, je n'ai jamais vu ça. Je crois qu'il a pleuré devant tous ceux qui sont morts pour l'éternité. Comprenez ce que je veux dire? Il n'y avait pas de raison que Jésus pleure. Vous me comprenez? Bien sûr qu'il était ému de voir la douleur de Marthe, mais enfin, quand même, il savait très bien que ça allait tourner vite, cette affaire. Il a pleuré, je suis convaincu, à cause de tous ceux qui sont morts dans les ténèbres. Et que ça, Dieu n'est pas d'accord. C'est pour ça qu'il faut que l'Église soit vivante et bouillante. C'est pour ça que je vous rappelle ce que je vous ai dit dimanche. Il faut que l'Église soit une maison de prière. Parce que quand on prie, on permet aux hommes et aux femmes d'être sauvés. On permet aux hommes et aux femmes de passer des ténèbres à la lumière. On permet aux rétrogrades de revenir. On permet aux pécheurs d'être convaincus de péché. Voilà pourquoi Dieu veut que l'on prie. Et c'est ce moment où Jésus pleure est un enseignement très très fort. Et je crois qu'il faut se poser la question également. Est-ce que Jésus pleure devant notre Église? Est-ce que Jésus pleure devant notre mouvement? Moi je le pense. Je vous le dis franchement. Dieu m'est témoin. Je sais ce que je dis. Je pèse mes mots. Moi je pense que Jésus pleure dans beaucoup d'églises. Que Jésus pleure dans beaucoup de foyers. Dans beaucoup de maisons. Parce que la foi est en train de diminuer. On est en train d'abandonner l'amour de Dieu. Et le Seigneur il pleure. Il pleure parce que si on ne fait pas quelque chose, il y aura de plus en plus de morts dans l'éternité. Perdus. Parce qu'il va y avoir la manifestation de la puissance de Dieu, mais pour qu'il y ait la manifestation de la puissance de Dieu, il faut qu'il se passe quelque chose. Le Seigneur aurait pu tout faire. Est-ce qu'il aurait pu ôter la pierre? Est-ce que franchement, c'était un problème pour Jésus de déplacer la pierre? Est-ce qu'il avait besoin de quelqu'un? Est-ce qu'il aurait pu dire à la pierre, « Pierre, déplace-toi. » Est-ce qu'elle l'aurait fait? Vous êtes sûr? Mais bien sûr. On voit à plusieurs reprises la façon dont Dieu s'y prend. Moi, je pense qu'il n'a pas besoin de parler longtemps pour déplacer un caillou. Mais, comme je vous ai dit au début, pour que la puissance de Dieu se manifeste, il faut toujours la foi de l'homme. Et ce soir, moi, j'en suis convaincu, Dieu veut bénir. Tous on peut être bénis ce soir. Mais il a peut-être une parole à prononcer à plusieurs, comme il l'a dit au verset 39, ça c'est les trois petits mots qui nous concernent à nous, tout le reste parle de Dieu, de sa puissance, de son intervention, de sa souveraineté, mais les trois mots du verset 39, ôter la pierre, sont les trois mots qui nous concernent. Ce soir, s'il y a peut-être trois mots que vous devez recevoir, retenir, c'est bien cela, ôter la pierre. Ne soyez pas dans cette espèce de passé, ah si Jésus, oui, mais tu ne comprends pas, moi, oui, ou plus tard on verra. Il n'est pas dit, il vous sera fait selon votre espérance. Bénis soient les gens qui ont de l'espérance. Heureux êtes-vous si vous avez de l'espérance. Vous espérez dans la grâce de Dieu? Heureux êtes-vous. Nathanaël a prêché avant de partir sur l'espérance. Heureux les gens qui ont de l'espérance. Mais voilà, il ne vous sera pas fait selon votre espérance. Vous comprenez? Il ne vous sera pas fait selon votre espérance. Gardez l'espérance et que l'espérance grandisse. Il vous sera fait selon votre foi. Et si le Seigneur ce soir vous interpelle, s'il vous dit, voilà, il y a une pierre dans ta vie, ôte-la. Il va falloir le faire. Je ne sais pas si elles ont hésité, elles ont dit oui, mais tu sais, ils sentent déjà. De leur dire, oh là, qu'est-ce que les autres vont penser? Mais, vous voyez, elles croyaient, pourtant elle l'a dit, mon frère ressuscitera. Il n'y avait pas un problème au niveau de la doctrine. Et ce n'est pas parce qu'on est calé dans la doctrine que l'on a une foi qui permet à Dieu d'agir maintenant. La doctrine, moi je la connais par cœur, mais ce n'est pas pour ça que, je veux dire, j'ai une foi vivante continuellement. Oui, il ressuscitera, oui, elles étaient au clair sur tout, ces braves sœurs. Mais ce soir, laissons le Saint-Esprit nous interpeller dans un moment de grâce, de visitation, dans un moment de bénédiction. Le Seigneur est peut-être en train de nous dire, oui, là, oui, je suis devant ta vie, mais dans ta maison, je ne veux pas pleurer devant ta maison, je ne veux pas souffrir devant ta maison, je veux bénir ta maison. Oui, Jésus pleure dans beaucoup d'églises, parce qu'on n'honore plus la parole, on n'honore plus la doctrine, on n'honore plus la croix. Pour que Jésus agisse maintenant, il faut mettre sa foi en Christ maintenant. Vous êtes nouveau, vous n'êtes pas encore baptisé, vous ne savez pas ce que c'est la repentance ou la conversion, vous ne comprenez pas toute la parole de Dieu, mais vous comprenez quand même dans votre cœur que vous avez affaire à ce Seigneur Jésus qui est mort sur le bois de la croix pour vos péchés, qui est ressuscité, qui est vivant par le Saint-Esprit, qui est là au milieu de nous. Vous ne comprenez pas tout, mais vous devez peut-être ôter la pierre. C'est peut-être le péché, votre péché avec un péché, un P majuscule qui vous écrase et qui vous empêche de donner votre vie à Dieu. Vous devez renoncer au péché. On ne peut pas marcher avec Dieu et marcher volontairement dans le péché. Il faut arrêter son péché. Seigneur, pardonne-moi, comme ce brigand sur la croix, souviens-toi de moi. Ne crains-tu pas Dieu, a-t-il dit à l'autre. Voyez comme on change quand on écoute la parole de Dieu. Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation. Dieu veut bénir un pécheur ce soir, mais est-ce que Dieu veut bénir un chrétien? Est-ce qu'à plus forte raison, si Dieu a donné sa vie sur le bois de la croix, à combien plus forte raison ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? C'est écrit ou c'est pas écrit ça? Si Dieu bénit les pécheurs, vous ne croyez pas qu'il va bénir ses enfants? Si moi je bénissais le fils de mon voisin, je crois quand même, que je bénirais plus facilement mon fils. Vous ne le croyez pas, mes frères et sœurs? Alors si Dieu est capable de bénir les pécheurs, des hommes qui encore ont le diable pour père, ne croyez-vous pas que Dieu bénira ses enfants? Il est le Dieu qui bénit maintenant. Il est le Dieu qui restaure. Ne repartez pas affligé. Ne reportez pas mou. Soyez ferme dans votre foi. Dites, Seigneur, tu me montres quelle est ma pierre. Oui, il y a une pierre dans ma vie. Il y a un péché dans ma vie. Il y a quelque chose qui fait obstacle. Quand Dieu donne un ordre, il faut le prendre en considération. C'est vrai que les Juifs étaient là à parler. Mais comment ça se fait? Il a ouvert les yeux des aveugles. Il ne pouvait pas le guérir. Vous savez, ce que les autres disent, ce n'est pas important. C'est ce que Dieu a à vous dire. Peut-être les gens vous disent certaines choses. Voilà, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Bon, c'est bien, c'est pas bien. C'est pas important. Ce qui est important, c'est un mot du Seigneur Jésus. Une parole du Seigneur Jésus. Ce que ses sœurs avaient besoin d'entendre, c'est pas ce que les pleureuses ou les amis, les voisins, la famille avaient à dire. Elles avaient besoin d'entendre trois mots. Ôter la pierre. Si elles ne l'avaient pas fait, Lazare ne serait pas ressuscité. Si vous ne faites pas ce que Dieu vous demande, le miracle ne se produira pas. Il vous aidera, il le répétera le nombre de fois qu'il le faut, mais il donne un ordre. Et c'est là qu'il faut s'arrêter. Si on doit prendre 2 minutes pour réfléchir, c'est bien sur ces trois mots. Ôter la pierre. Et il ajoute pour les encourager, parce que ça paraissait quand même difficile, qu'on ne va pas avoir l'air bête si rien ne se passe. Vous voyez, dans le deuil, dans l'épreuve, et puis il ajoute une promesse qui parcourt les églises du monde entier. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Elles avaient besoin d'un ordre, elles avaient besoin d'une promesse. Parce que Dieu, il sait nous encourager. Quand il nous donne un ordre, quand il dit à quelqu'un, convertis-toi, il va de suite lui parler du ciel, du salut et du pardon des péchés. Quand Dieu dit à un homme, ôte la pierre, il va dire, attends, mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vous croyez que c'est une parole pour quelqu'un ce soir? Et moi, je le crois. Que Dieu peut dire à quelqu'un avec beaucoup de sollicitude, tu vois mon enfant, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Croyez-le, prenez cette parole et dites, Seigneur, mais montre-moi, peut-être que je suis aveugle en ce moment, les situations m'aveuglent. Paul prie pour que Dieu illumine les yeux des cœurs des chrétiens qui sont aveuglés. On voit que plusieurs fois dans l'église, Dieu dira, mais tu ne sais pas que tu es aveugle. Voyez, ça arrive. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est l'obstacle? Qu'y a-t-il un obstacle dans ma vie? S'il y en a un, il va vous le montrer. Ne jouez pas cache-cache avec Dieu. En tous les cas, lui, ce n'est pas son jeu préféré. Je laisse moi vous dire que Dieu ne joue pas cache-cache. Dieu, il montre les choses. S'il n'y a pas de péché, il n'y a pas de péché. Mais s'il y en a un, il vous le montrera. C'est peut-être la crainte. Peut-être que Dieu veut vous délivrer de la crainte. Ça ne peut pas être un obstacle, la crainte, dans la vie de quelqu'un. La timidité, ça peut être un obstacle qui vous empêche de voir la gloire de Dieu, de faire certaines prières, de vous tenir. Je reviens à ce verset de Daniel. Ceux du peuple qui connaissent Dieu agissent avec fermeté. Et la fermeté, ça paye. Parce que Dieu honore ceux qui se font violence. Il y a un péché, une crainte. Peut-être c'est le chagrin. J'ai été touché, moi, quand j'ai lu dans l'Ecclésiaste, « Bannis de ton cœur le chagrin ». Le chagrin, ce n'est pas un péché. Je regrette, le chagrin, ce n'est pas un péché. Mais ça peut devenir un obstacle. Est-ce que c'est un péché, un chagrin? Mais non. Mais quand Dieu dit « Ôte de ton cœur le chagrin », ça veut dire que bon, maintenant, ça suffit. Tu as assez traîné ton truc. Il te faut maintenant t'en débarrasser. Bannis de ton cœur le chagrin. Il y a un moment donné où Dieu dit, voilà, ça va t'empoisonner l'existence avec ce chagrin, ce cafard, cette mélancolie. Tu vas te détruire la vie. Ça va t'empêcher de mettre ta foi en moi. Alors, bannis de ton cœur le chagrin. C'est écrit. Peut-être vous êtes dans le même cas de figure. Vous dites, oh, mais ça, c'est pas un péché, après tout. Ben oui. Et les autres vous diront, ben oui, c'est pas grave. Ou les autres vous diront, ben tu sais, tu fais, écoute, tu le vois, hein. Mais ce n'est pas ce que les autres vont vous dire avec gentillesse qui est important. Si Dieu vous dit « bannis de ton cœur le chagrin », c'est un ordre qu'il vous faut prendre au sérieux. Et Dieu vous bénira. parce que vous ôterez la pierre et vous verrez la grâce de Dieu se manifester. Je crois que s'il y a bien un peuple qui doit être joyeux sur la terre, ça ne peut que être le peuple de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? S'il y a bien des gens, si on a le fardeau des âmes, s'il y a bien quelqu'un qui doit se réjouir sur la terre, c'est le peuple du Seigneur qui a le droit d'avoir la joie du salut et la joie de voir la gloire de Dieu quand on sait le programme qui nous attend. Moi, je crois qu'on peut quand même se réjouir, malgré le fait que l'on soit malheureux, de voir que tant et tant d'hommes et de femmes ne veulent pas se convertir. Ôtez le chagrin, ôtez l'inquiétude, ôtez ce péché, ôtez cet obstacle et demandez à Dieu la grâce. Elles n'ont pas dû le faire toutes seules, ces deux pauvres femmes fatiguées. Elles étaient peut-être là devant ces grosses pierres. Vous verrez en Israël, vous en verrez de ces tombeaux avec des grosses pierres rondes là, qui font plusieurs centaines de kilos. Elles ont dû dire à des amis, écoutez, aidez-nous, Jésus vient de dire, ôtez la pierre. Je les vois toutes paniquées, toutes affolées. Mais elles l'ont fait. Que vous soyez paniqués ou pas, c'est pas grave. Faites-le. Gédéon, de nuit, quand Dieu lui a dit, écoute, il te faut renverser l'idole. Dans ta maison, il y a une idole. Et il l'a fait de nuit, il avait peur. Il l'a fait de nuit. Mais que vous le fassiez de nuit ou de jour, faites-le. Que vous le fassiez dans la crainte ou pas, mais faites ce que Dieu vous demande. Faites-le de tout votre cœur. Dieu fera le reste. Parce que quand même, le reste, c'est important. Rouler la pierre, c'était peut-être gênant, mais ressusciter le mort, c'était quand même une affaire plus sérieuse. Et le Seigneur, il l'a fait. Mort depuis 4 jours, en état de putréfaction, Dieu, il a dit, sors. J'ai lu dans un commentaire un jour, ça m'a fait rire et pleurer de joie. Quelqu'un a dit ceci, si Jésus n'avait pas dit Lazare, s'il avait dit « sors », tous les morts sortaient. Quoi qu'un jour, il va leur dire « sortez ». Et tous sortiront, enfin tous les rachetés, tous les chrétiens, les vrais chrétiens, il va dire « sortez ». Mais il a bien fait de dire que Lazare. Ça m'a fait sourire parce que c'était bien dit, pour montrer la puissance de Dieu. Mais ce soir, si Dieu demande la bénédiction sur ta vie, un mot, dis un mot. Vous croyez que si Dieu veut vous bénir maintenant, il peut le faire? Vous croyez qu'il y a quelque chose qui l'inquiète? N'est-il pas écrit que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre? Que depuis qu'il est monté au ciel, toutes les autorités lui sont soumises, toutes les dominations, toutes les principautés. C'est vrai que quand quelqu'un rentre, le diable il va essayer de le détourner. Mais vous ne croyez pas que Dieu est plus grand pour l'attirer et le sauver? Ça revient encore une fois à cette idée de la prière. La prière, elle donne la victoire. Oui. Quand Jésus, il passe dans un cimetière, c'est bien. Vous avez remarqué 3 fois qu'il a croisé un mort, hein? Ça s'est très très bien passé. Nous, on n'a pas besoin de cimetière. Nous, on veut un endroit plein de vie. L'église ne doit pas ressembler à un cimetière. L'église, c'est un endroit où la vie de Dieu se manifeste. Vous êtes d'accord? Nous, les cimetières, on sait juste les décorer. Mais la décoration, ça ne change rien. On n'a pas besoin de décoration, quoique Dieu s'entende dans décoration. Jérémie nous parlait de tout ce qu'il a fait est merveilleux. Et c'est vrai que quand vous voyez bientôt les paysages en automne, vous allez voir que Dieu s'y entend en décoration. Mais Dieu, il ne fait pas de la décoration. Dieu, il donne la vie. Amen. Dieu, il donne la guérison. Dieu, il donne le pardon. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors la petite chose que tu me demandes, vous êtes animateur de l'école du dimanche, tenez-vous devant Dieu pour les enfants. C'est la parole du Seigneur pour toi. Tiens-toi devant Dieu pour les enfants que je te confie. C'est une responsabilité que d'avoir des enfants, non les animateurs. Tiens-toi devant Dieu. 4 mots. Prenez-les au sérieux et vous verrez la gloire de Dieu. Vous êtes meneur de chant, tenez-vous devant Dieu pour préparer les chants et les cantiques. Vous devez prêcher, vous devez faire quelque chose. Tenez-vous devant Dieu et Dieu fera le reste. Vous avez reçu quelque chose, faites-le consciencieusement. Oui, nous avons un Dieu qui bénit. J'aimerais qu'on ferme les yeux quelques instants. Parce que moi, je suis persuadé que si Dieu m'a mis ce message ce soir sur mon cœur, c'est parce qu'il veut nous rappeler qu'on n'a pas besoin de tradition, de religion, de rituel. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit dans la maison du Seigneur. Alors enlevez de votre cœur l'incrédulité, le doute, le chagrin, un péché quelconque. Dieu, il met la vie. Là où il y a la mort, il met la vie. Et il ne veut pas agir demain ou hier, il veut agir maintenant. Qui a besoin de miséricorde? Qui a besoin de pardon? Qui a besoin de délivrance? Qui a besoin d'être délivré de la timidité, de la crainte? Peut-être que Dieu vous appelle à être, comme la prophétie le disait, fidèle dans des petites choses. Eh bien, soyez délivrés. Soyez délivrés ce soir. Vous rappelez cette parole que Jésus a dit un jour à un homme qui était malade depuis 38 ans? Veux-tu être guéri? Non, mais ça fait presque... Ça ne serait pas aussi sérieux. On pourrait en rire. Mais ce n'est pas fait pour rire. C'est fait pour nous rappeler qu'il y a des gens qui sont malades et ils ne veulent pas être guéris. Il y a des gens qui sont dans le péché, ils ne veulent pas être sauvés. Il y a des gens qui sont dans l'amertume, ils ne veulent pas être apaisés. Il y a des gens qui sont dans le, je sais pas, dans le ressentiment, ils sont dans la crainte et ils y restent. Veux-tu être guéri ce soir? Vois-tu ce Seigneur sur la croix crucifié, pantelant, qui a versé son sang pour guérir tous les hommes? Il l'a promis, je guérirai tous les affligés. Il l'a promis, ses meurtrissures, ses blessures nous prouvent que Jésus veut guérir tous les pécheurs. Et à combien plus forte raison ses enfants. Pendant le chant d'un cantique.